Alors donc je suis Mathias Cornillo, actuellement je suis dans la chambre de la propriété intellectuelle du tribunal judiciaire de Paris, mais juste avant j'étais à la quatrième chambre, laquelle en fait tranche le principe de responsabilité dans de nombreuses matières, y compris dans tout type de litige, accident ou faute. J'ai également été juge des référés, donc à cette occasion j'ai ordonné de nombreuses, si ce n'est pas des centaines et des centaines, d'expertise. Voilà, donc c'est aussi ce qui justifie un peu ma présence, outre malheureusement un empêchement de l'un de mes collègues que je remplace. Alors, avant toute chose, il me semble essentiel que l'on puisse définir la médiation, même si on peut en avoir une approche somme toute courante. On peut voir effectivement que la médiation, on peut l'envisager assez simplement, mais il faut l'envisager ici de manière juridique. Donc nous disposons d'une définition qui nous est donnée en fait par une directive européenne du 21 mai 2008 qui l'a définie comme un processus structuré dans lequel deux ou plusieurs parties à un litige tentent par elles-mêmes de parvenir à un accord sur la résolution de leur litige avec l'aide d'un médiateur. Donc là, la question se pose de qu'est-ce qu'un médiateur donc à ce moment-là. Et en France, nous... Médiateur de justice. Et c'est là qu'apparaît une première difficulté sémantique, ou du moins de définition, puisque pour les institutions européennes, la médiation recoupe tout un tas de notions que nous, en droit français, nous prenons soin de différencier. Alors... C'est ce qui nous amène à devoir différencier dans un premier temps la médiation de la conciliation, qui sont au sens du droit européen la même chose. Mais nous, en droit français, la conciliation va se distinguer de la médiation par plusieurs aspects, qui sont en réalité au nombre de trois. La première, c'est que la médiation implique un coût financier pour les parties quand la conciliation est gratuite, puisqu'elle est prodiguée donc par des conciliateurs qui sont bénévoles. Une autre différence va tenir en fait à la formation des conciliateurs qui, eux, sont formés par l'École nationale de la magistrature, tandis que les médiateurs, eux, bénéficient d'une certification qui peut être universitaire ou par des instituts de formation, mais donc par une formation diplômante en réalité. Ce qui n'est pas le cas des conciliateurs qui peuvent être par exemple des anciens présidents de tribunaux ou alors des personnes qui se sont qualifiées par leur expérience ou en état de cause qui ont envie de servir cette mission bénévole pour les concitoyens. Alors une autre distinction va apparaître aussi lorsqu'on parle de médiation, même si le titre de ma présentation peut être un peu trompeur, puisque la médiation judiciaire en réalité elle peut revêtir deux aspects. Elle peut être judiciaire stricto sensu, mais elle peut aussi être conventionnelle. Et conventionnelle, on imagine tout de suite que ça peut être en dehors de tout litige, mais en réalité il peut y avoir une médiation conventionnelle pendant le litige. Donc elle revêt un caractère judiciaire, même si elle n'est pas à proprement parler judiciaire. Il faut aussi voir un autre pendant de la médiation au sens européen, mais qui n'est pas une médiation au sens strict français, c'est la nouvelle audience de règlement amiable qui permet en fait à un tribunal qui est saisi d'une affaire de désigner un juge qui n'appartient pas à la composition de jugement pour tenter de résoudre à l'amiable, non pas comme une médiation au sens strict, mais avec cette approche quand même d'amiable qui n'est donc pas d'avoir une approche strictement juridique et une solution juridique au problème. Donc une fois qu'on a fait cette distinction, ici il va s'agir de vous présenter la médiation judiciaire et à quelques égards donc la médiation conventionnelle, puisque évidemment elle se recoupe à bien des égards, notamment sur leur déroulement. Alors, donc la médiation judiciaire aujourd'hui et depuis plusieurs années, elle a évidemment le vent en poupe, si je puis me permettre, puisque le garde des Sceaux de l'époque, donc Éric Dupond-Moretti, s'était saisi, en avait fait un élément saillant de sa politique ministérielle. Et plus généralement, donc je ne vais pas revenir sur les considérations temporelles parce que j'avais pris le soin pour le livret de développer un peu l'aspect évolution législative, donc ça va me permettre d'avoir un propos peut-être un peu plus dynamique, comme ce qu'est censé être aussi une médiation, parce que l'objet de mon propos sera aussi de vous démontrer que, évidemment, la médiation judiciaire, on peut l'imaginer un petit peu comme cette scène de Fragonard, donc un peu naïve dans une forêt sombre, que serait le litige, et avec une rencontre amoureuse. Mais non, en réalité, c'est aussi un outil, et avant tout un outil procédural et une mesure judiciaire extrêmement précieuse, dynamique, dont les praticiens s'emparent de plus en plus et qui est extrêmement bénéfique pour les parties, même si malheureusement on peut déplorer qu'elle ne soit pas encore largement utilisée dans le contentieux. Donc on va essayer de répondre donc à la question de ce colloque, à savoir quoi de neuf dans l'expertise de santé. Donc la médiation, est-ce que c'est neuf, ou en tout cas est-ce que elle a été judiciaire, est-ce qu'elle a été renouvelée, et qu'elle peut être un outil neuf pour vous, et en tout cas comment elle s'exprime. Alors, donc, ce que je vais vous dire dans un premier temps, c'est que donc la médiation judiciaire aujourd'hui, elle bénéficie d'un cadre général renouvelé. On va développer d'abord les principes et objectifs traditionnels de la médiation judiciaire. On va s'intéresser à sa mise en œuvre et donc à son régime renouvelé. Et ensuite, dans une seconde partie, on abordera plus spécifiquement pour vous en quoi il s'agit d'un outil adapté dans les litiges qui présentent un caractère médical ou sanitaire. Alors, pour ce qui est donc des principes et objectifs de la médiation, on va débuter donc par les principes traditionnels que j'ai esquissés à l'instant, parce que ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est qu'il y a des... c'est ce qui fonde l'intérêt aussi de la médiation. En premier lieu de ces principes, il y a donc la notion de volontariat, puisque le code de procédure civile conditionne le prononcé d'une mesure de médiation judiciaire à l'accord conjoint des parties. Alors, qu'est-ce que signifie l'accord conjoint ? C'est-à-dire que s'il n'y a qu'une seule des parties qui est d'accord pour la médiation, le juge ne peut pas l'ordonner. S'il y en a une qui ne répond pas à l'accord, on ne peut pas l'ordonner. Et en tout cas, si les deux parties ne sont pas d'accord, évidemment, on ne peut pas l'ordonner. Effectivement, comme la médiation est un outil nouveau, chaque nouveauté, on l'a vu à travers l'intelligence artificielle, peut susciter des réticences, effectivement, de la nouveauté, et encore plus lorsque, en matière de contentieux judiciaire, on a la pratique du contentieux, donc du conflit. Donc, a priori, la notion d'amiable n'avait pas sa place, et en tout cas, allait avoir des difficultés pour convaincre les praticiens de s'en emparer. Donc c'est pourquoi le législateur nous a offert, à nous juges, un pouvoir d'injonction qui ne nous permet pas de contraindre les parties à entrer en médiation, mais en revanche de les contraindre à rencontrer un médiateur pour obtenir l'information sur les tenants et les aboutissants, et le déroulement d'une médiation pour leur litige. Donc cette injonction, elle va... s'exprimer à tout temps de la procédure. Elle peut être ordonnée en matière de référé ou dans une procédure au fond. Elle peut être prononcée au début de la procédure, au milieu de la procédure, à la fin de la procédure, quelques semaines avant l'audience de plaidoirie, ou plus encore, moi je l'ai vu encore dernièrement, à l'issue de l'audience de plaidoirie, injonction pendant le délibéré de rencontrer un médiateur, et parfois l'on peut être surpris puisque les parties peuvent réussir à trouver un accord alors même que la décision va s'offrir à elles, alors j'allais dire quelques semaines, mais en réalité quelques mois plus tard, pour être vraiment honnête. Donc nous avons donc cette notion de volontariat, mais on a aussi celle qui est essentielle, et on l'a développée, enfin, et vous l'avez développée dans la table ronde juste avant, c'est la notion de confidentialité aussi qui est précieuse dans la médiation. Puisque effectivement le code de procédure civile l'impose, tout ce qui est dit dans la médiation reste dans la médiation, restera dans la médiation, sauf accord contraire des parties pour qu'il y ait une divulgation. Donc cette confidentialité, elle en fait un outil majeur, principalement effectivement en droit des affaires, où la notion de confidentialité et de secret d'affaires peut avoir une importance capitale dans certains litiges, notamment sous l'angle probatoire, mais aussi dans des contentieux où la vie privée va s'exprimer. On peut penser de manière élémentaire au contentieux familial ou alors à d'autres types de contentieux. Mais parce qu'effectivement, même si il y a des données à caractère privé, il ne faut pas oublier, même si les audiences sont souvent vides dans les juridictions civiles, que ça reste une audience publique et une décision, pour la plupart du temps, rendue publiquement. Donc tout ce qui est dit dedans reste public. Donc après cette notion de volontariat et de confidentialité, un autre intérêt de la médiation judiciaire, c'est sa flexibilité, puisque contrairement au juge qui est saisi uniquement du litige, au cours de la médiation, on va pouvoir dépasser le litige et donc pouvoir aller chercher au-delà parfois de ce qui est demandé. Quelque chose de très important parce que ça permet également de s'émanciper d'un certain nombre de contraintes procédurales qui sont effectivement à la fois nécessaires mais aussi très lourdes pour les parties. On va avoir le temps nécessaire pour les échanges de conclusions, la nécessité d'examiner parfois certaines pièces, le temps pour les communiquer entre avocats qui ont leurs propres contraintes d'agenda. Donc cette notion de flexibilité qui est évidemment pour corollaire la rapidité, et la rapidité elle est aussi prise en compte par le législateur pour la médiation judiciaire parce qu'elle a imposé une durée finalement maximale. Le juge ne peut prononcer une médiation que pour une durée de 3 mois maximum qui ne pourra être renouvelée pour la même durée qu'une seule fois. Donc ça veut dire en tout 6 mois. Évidemment, si ce temps ne suffit pas, les parties peuvent toutefois choisir de poursuivre sous l'angle conventionnel, mais dans ce cas-là, effectivement, on considérera que le fait d'obérer le délai de justice ne relèvera pas de l'institution elle-même, mais des besoins des parties, et qu'elles l'auront donc décidé par elles-mêmes. L'autre avantage, que l'on peut voir aussi comme un des avantages, c'est le coût, puisque je vous l'ai exposé à titre liminaire, la médiation a un coût. La plupart du temps, c'est une provision environ de 2500 euros qui correspond à 3 réunions qui sont souvent estimées comme le minimum nécessaire pour aboutir éventuellement. Ah, pardon. Voilà, donc trois réunions qui ont été évaluées comme étant le minimum nécessaire pour parvenir à un accord ou éventuellement malheureusement finir en échec. Donc ce coût gratuit, ce coût payant, malheureusement, il faut, je pense, le relativiser puisqu'il faut le mettre le comparer avec des données autres, à savoir le coût final d'une procédure lorsqu'elle a duré plusieurs années et donc les frais d'avocat respectifs des parties, puisque lorsqu'on perd une procédure, on est condamné à payer à tout le moins une partie des frais de l'autre avocat. Et on doit aussi la relativiser, puisque même si on estime que le justiciable paye déjà par ses impôts l'accès au service de la justice, on nous l'a rappelé, sur 1000 euros d'impôts, 5 euros seulement vont à la justice, donc on peut se dire que la contribution à la justice, elle reste quand même résiduelle, donc peut-être que le coût qu'on peut engager pour sortir d'une affaire peut valoir également la peine. Alors, donc, on a fini sur le point de savoir quels sont les principes, finalement, et les atouts de la médiation lorsqu'on la met en parallèle, avec la procédure judiciaire. S'agissant de sa mise en œuvre, c'est ce que je vous indiquais, elle a été renforcée. Renforcée donc avec ce pouvoir d'injonction, donc je ne vais pas le développer davantage, mais qui permet effectivement malgré tout de contraindre les parties à se sensibiliser à la mesure, et ça fonctionne puisque il n'est pas rare qu'après ce rendez-vous les parties décident d'entrer en médiation ou en tout cas reprennent contact physiquement ensemble et peuvent reprendre les pourparlers par l'intermédiaire de leurs avocats. D'autres dispositions sont favorables à la médiation judiciaire puisqu'il y a parfois des clauses compromissoires qui obligent les parties avant de saisir le juge de s'adresser à un médiateur. La Cour de cassation les a rendus a consacré leur impérativité, sauf en matière de référé, effectivement, puisque l'urgence permet de déroger à ces clauses. Également, nous avons l'article 750-1 du code de procédure civile qui, dans certains litiges, alors qu'on qualifie de petit ou alors de litige du quotidien, d'imposer aux parties d'avoir à tout le moins tenté un mode de résolution amiable parmi lesquels est listée la médiation. Alors donc pour la mise en œuvre de la médiation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle se déroule donc sous l'angle de ces trois séances dont je vous ai parlé, qui sont en général le minimum dans les médiations. Il y a une première phase qu'on appelle la phase préparatoire, donc c'est celle dans laquelle le médiateur va rencontrer donc les parties, entendre leurs positions respectives, c'est-à-dire déterminer les besoins, les attentes du procès de chacun, et il va pouvoir donc avoir cette première approche du litige, puisque lorsqu'il est saisi par l'ordonnance de désignation, il n'a pas connaissance du litige, et le juge n'a pas le droit de lui donner son avis sur le litige ou son sentiment ou les raisons pour lesquelles il pense que cette médiation est particulièrement adaptée. Le médiateur doit rester neutre, c'est sa garantie fondamentale aussi pour le bon déroulement de la justice et pour la confiance que vont avoir les parties à son égard. Ensuite, il y aura une seconde phase qu'on appelle la phase qui pourrait être une phase qu'on appelle non contradictoire, puisque c'est à cette occasion de cette réunion que le médiateur va pouvoir entendre les parties séparément. À cette occasion, il va pouvoir aussi constater l'existence de pièces qu'une autre partie ne pourrait pas avoir envie de montrer à l'autre partie. Donc il va y avoir pouvoir, ce qu'on peut appeler dans un sens un peu trivial, une forme de lâcher prise ou de dire un peu crûment ce qu'on a envie de dire, parce que ce sera à la fois confidentiel, mais en plus hors la présence de l'autre partie, donc on peut se permettre de tout dire et comme on l'entend. Alors, la dernière phase, donc c'est ce qu'on appelle une phase plénière, de réunion plénière, donc c'est là où les parties vont ensuite confronter leurs points de vue, il va y avoir un travail de reformulation pour essayer de faire entendre à chacune des parties les attentes de l'autre, les reformuler, parce que parfois dans un dialogue les positions ne sont pas comprises, ou alors le litige prend une autre configuration puisque la médiation permet aussi de faire émerger par ce jeu de dialogue et de reformulation, de comprendre également ce que les parties attendent mutuellement du litige, et parfois on se rend compte que ça n'est pas seulement une indemnisation financière, parfois il y a effectivement bien d'autres leviers qui peuvent être d'ordre personnel, mais aussi parfois la simple reconnaissance d'un statut, d'une faute, et que le contentieux n'a pas nécessairement besoin d'être tranché par un juge. À l'issue de ce déroulement de la médiation, plusieurs voies possibles, soit les parties vont multiplier leur demander à avoir d'autres réunions pour continuer dans la médiation, soit on peut aboutir à un accord total, soit cet accord peut être partiel, ou malheureusement il peut s'avérer un échec. En cas d'accord partiel ou total, les parties peuvent décider, mais ce n'est pas obligatoire, de demander au juge d'homologuer leur accord, ce qui permettra d'avoir force exécutoire à cet accord, et donc d'avoir une décision équivalente à une décision de justice, et de pouvoir faire d'obtenir notamment l'exécution forcée de leur accord. Mais ça n'est pas obligatoire, et d'ailleurs la pratique révèle que ça n'est pas du tout systématique, loin de là, que l'homologation soit demandée, puisque la plupart du temps, quand le litige revient, il a été exécuté, les parties se bornent à un désistement. Voilà pour ce qui est du déroulement de la médiation. J'espère que ce n'est pas trop rapide et que c'est suffisamment clair, mais j'essaie effectivement aussi de gérer le timing qui est le nôtre. Pour la seconde partie, donc, qui va vous concerner peut-être plus directement après avoir vu cette première approche générale de la médiation, en quoi il s'agit d'un outil adapté pour le contentieux qui présente un caractère médical ou sanitaire. Alors j'ai identifié avec le programme qui était le vôtre aujourd'hui, à la fois celui qui présente le contentieux du dommage corporel et aussi le contentieux environnemental. Alors pour ce qui est du dommage corporel, comme je l'ai indiqué, les enjeux de ce contentieux ne sont pas toujours, ou en tout cas ne se limitent loin de là, à la simple obtention d'une indemnisation financière. Parfois la question est aussi de savoir est-ce que je suis reconnu comme victime, parce que dans le cas d'une procédure judiciaire, on conteste l'indemnisation du préjudice, on conteste la responsabilité, donc on a une victime qui ne se sent pas entendue, qui, elle, a conscience de son dommage et a l'impression qu'on lui nie sa qualité de victime. Donc ça va permettre, ce que ne permet pas le procès judiciaire, d'entendre la victime abondamment au cours de ces réunions, de faire valoir ses difficultés, son ressentiment, ses sentiments, enfin, que sais-je d'autre. Et à l'inverse, pour la personne dont on recherche la responsabilité, d'expliquer aussi parfois en quoi ça... Parce que parfois, quand on parle de responsabilité en droit, C'est simplement une question aussi de solvabilité. Parfois, aujourd'hui, la notion de faute, elle n'est pas du tout et rarement nécessaire pour engager une responsabilité. Donc parfois, ça peut être l'occasion d'expliquer soit qu'il n'y avait pas d'intention, de faire entendre son point de vue. On peut également penser aussi à la justice restaurative, puisque bon, moi je ne fais que du contentieux pénal, mais on le voit bien que parfois le dialogue, c'est ce que recherche aussi la victime, d'être entendue, d'être comprise et de comprendre pourquoi. Et parfois, ça, la médiation peut le permettre. Pour ce qui est du dommage environnemental, c'est les mêmes questions, parce que l'enjeu, souvent, et on peut le voir notamment dans les matières de devoir de vigilance, l'objectif est moins d'obtenir de l'argent que d'obtenir concrètement un changement de pratique, d'obtenir des engagements, de modifier l'approche d'une entreprise. Donc là, la médiation peut parvenir à cet objectif. Et d'ailleurs, lorsque j'étais à la quatrième chambre, on a eu plusieurs affaires de ce contentieux entre des grosses entreprises et des associations qui ont permis d'aboutir à des accords. Et ça, c'est essentiel pour tout le monde, y compris pour les entreprises, puisque ces contentieux menacent aussi les emplois. Donc il y a aussi des contraintes qui peuvent être entendues de part et d'autre. Et là encore, une procédure judiciaire par l'intermédiaire d'écriture de conclusion d'avocat ne permet pas d'atteindre cet objectif. L'autre enjeu, il peut être aussi de manière probatoire, parce que parfois on peut être effectivement victime, avoir un dommage. En revanche, ça va être difficile de le prouver. On peut le savoir de part et d'autre, ou du moins l'ignorer, ou s'en rendre compte en cours de procédure. Et si on a une personne de bonne foi en face, elle peut être d'accord pour trouver un accord intermédiaire malgré l'absence de preuves. Enfin, il y a tout ce pan qui permet en fait de déroger aux règles de procédure, qui est effectivement bienvenue dans ce contentieux où la preuve, vous l'avez plus ou moins vue ce matin et vous y êtes confronté, puisque c'est la raison aussi de vos désignations, est parfois délicate et parfois impossible au moment où l'on statue et où vous êtes désigné avec les pièces qui vous sont communiquées. Ce que j'aimerais vous dire avant de terminer mon propos, c'est que je pense qu'en matière de médiation, l'expert judiciaire a un rôle à jouer, ou tout du moins il a une place à saisir, parce que même si l'article 240 du Code de procédure civile vous fait l'interdiction de concilier les parties, vous n'avez pas ce droit, et dans la mesure où il s'agit de pouvoir juridictionnel, le juge, par le truchement de l'article 21 du Code de procédure civile, ne peut pas vous déléguer sa mission de conciliation, il ne peut le faire qu'à l'égard d'un conciliateur ou d'un médiateur. Toujours est-il que se développe une pratique, et vous en avez peut-être déjà fait les frais, qui est au stade de la désignation de l'expert. Alors ça peut être dans le cadre d'un référé expertise, mais ça peut être aussi dans le cadre d'un jugement mixte qui a constaté la responsabilité du défendeur et qui va ordonner une expertise pour évaluer le préjudice dans le but qu'elle soit ensuite liquidée. C'est le cas à Paris, la 4e et la 5e chambre tranchent la responsabilité, expertise souvent, ensuite liquidation par la 19e chambre du tribunal. Donc là où vous pouvez être confronté à la médiation, c'est parce qu'il n'est aujourd'hui pas rare que, à l'occasion donc de cette ordonnance d'expertise, soit également prononcée une injonction à de rencontrer un médiateur, parce qu'on a l'espoir, nous en tant que praticiens, qu'une fois la responsabilité tranchée, la question du préjudice va pouvoir être négociée, ne serait-ce que pour les considérations qu'on a déjà évoquées de temps, mais aussi d'aléas judiciaires finalement sur l'évaluation qui sera retenue, puisque on ne suit pas toujours le rapport d'expertise. Donc désignation du médiateur, donc là effectivement vous pouviez y être confronté à cette occasion, mais vous pouvez y être confronté plus directement parce qu'aujourd'hui avec les dernières réformes, ce que permet aussi la médiation, c'est qu'en cours de médiation judiciaire, les parties peuvent décider de faire auditionner un tiers, dont l'expert, pour s'expliquer sur son rapport, enfin pour permettre de contribuer à ces réunions d'information, faire émerger le consensus. Donc là, vous pouvez y être exposé vraiment directement en participant à ces réunions. Vous pouvez également y être confronté, parce que si les parties ont besoin d'une expertise judiciaire pendant leur médiation, elles peuvent en faire la demande, alors soit au juge des référés s'il n'est pas encore saisi du litige, soit au juge de la mise en état qui pourra prendre cette décision. Et ce que je voulais aussi vous dire, parce que les avocats s'en sont emparés, il n'est pas rare aujourd'hui de voir des avocats médiateurs, et je pense qu'il serait pas sage, mais qu'en tout cas ça serait aussi une opportunité pour vous en tant que professionnel, justement parce que vous avez aussi un regard technique qui parfois est nécessaire dans les médiations, de comprendre ce qu'on nous dit, parce que quand on parle de molécules et qu'on est professeur de théâtre ou même que juriste, parfois on ne comprend pas du tout en fait ce qu'on nous dit. Donc parfois la connaissance est nécessaire, et donc l'intérêt parfois d'avoir des experts qui, à côté de leur profession, propose un service de médiation, pourrait à mon sens être ne pas se résumer qu'à un marché, mais vraiment une place aussi pour l'expert judiciaire à prendre en tant que médiateur potentiel. Je ne sais pas si certains d'entre vous le sont déjà, mais en tout cas il ne me semble pas que ce soit une incompatibilité, sauf évidemment être désigné à la fois médiateur et expert dans le même dossier, mais bon, ça c'est la vigilance du magistrat qui la prononce. Donc voilà la teneur de mon propos. Je pense qu'on a largement dépassé le temps qui était prévu. J'ai essayé d'être un peu plus concis que ce que j'avais moi-même prévu. Donc j'espère que ça restait malgré tout digeste et lisible pour vous.